Bon, ben on va reprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de commerce international et d'innovation. Voilà. Alors c'est important parce que vous avez vu quand même que l'élection aux États-Unis n'a pas porté au pouvoir un grand adepte du commerce international. Il y a des craintes maintenant qu'en France, il y ait des choses similaires qui se passent ou dans d'autres pays. L'Angleterre aussi n'a pas pris la voie d'une augmentation de leurs relations internationales. Et donc, c'est intéressant de savoir, voilà, est-ce que le commerce est bon ou mauvais pour la croissance ? Et quels sont un peu les problèmes qui se posent autour de la notion d'ouverture au commerce ? Alors, je vais, moi, parler beaucoup d'innovation. Et puis, on pourra peut-être après dire quelques mots. Donc, j'ai déjà pas mal de matériel, en fait. Et donc, je vais essayer de vous donner un peu un aperçu de la recherche récente. En fait, c'est de la recherche en train de se faire, en partie, sur le sujet. Évidemment, il y a toute série de questions qui restent ouvertes, mais je veux déjà vous montrer ce qui se fait à la frontière de la recherche sur ces problèmes-là. Je vais déjà, quand je dis théorie, c'est un peu une manière de penser, je ne vais pas vous montrer des équations. Il y aura un endroit où je vais montrer des équations, mais comme je vais bien les expliquer, ce n'est pas la peine de les regarder, et vous pouvez toujours les regarder, mais ce n'est pas, vous pouvez tout à fait comprendre sans les regarder. Donc on peut penser à plusieurs raisons pour lesquelles le commerce devrait stimuler l'innovation et donc la croissance de la productivité. Vous vous souvenez qu'on est quand même, nous, dans des économies, une économie où c'est l'innovation qui est le moteur de la croissance, principalement. Nous ne sommes plus une économie en rattrapage, nous sommes une économie de l'innovation. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le commerce et l'ouverture au commerce devraient en principe stimuler l'innovation. Et en plus, après, je vais évidemment passer de la théorie à l'empirique pour voir qu'est-ce que disent les données, en fait. Hein. Et une première raison, c'est que, en fait, l'ouverture au commerce, je vais écrire les raisons au tableau. Une première raison, c'est un effet taille de marché. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ouvrez au commerce international, eh bien, vous augmentez les rentes potentielles pour une innovation que vous faites. Vous voyez, votre innovation, elle va être mise en œuvre dans davantage de pays. Et ça va typiquement avoir un effet d'augmenter la taille du marché pour quelqu'un qui réussit à innover. Donc, ça augmente les rentes potentielles à l'innovation. Et donc, par ce biais, ça devrait augmenter l'incitation à innover. Si vous savez que vous avez des rentes plus grandes, ben, vous avez d'autant plus envie d'innover. Ça augmente le gâteau que vous vous appropriez si vous innovez. D'accord ? Donc, c'est un effet taille de marché. Et l'effet taille de marché, c'est un effet qui tend à être positif sur l'innovation. D'accord ? Donc cet effet taille de marché va être plus important, évidemment, pour les petits pays. C'est bien, si je suis un tout petit pays et que je m'ouvre au commerce international, évidemment, la taille, relativement à ma taille initiale, la taille va augmenter énormément de mon marché. Donc effectivement, on observe, et c'est vrai, il y a eu deux auteurs, Alesina et Spolaore, qui ont regardé les effets de taille, les effets du commerce sur la croissance, et ils ont montré que c'est dans le Handbook of Economic Growth 2005 que j'ai eu la chance d'être l'éditeur. Mais c'est en 2005. Et il montre très clairement que les petits pays bénéficient plus de cet effet que les gros pays, évidemment, hein, puisque relativement à votre taille initiale, votre taille augmente beaucoup plus si vous ouvrez. Si vous êtes déjà un gros pays et que vous ouvrez, la taille initiale augmente moins. La taille relative, je veux dire, de votre marché augmente moins par rapport à votre taille initiale. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier effet. Il y a un deuxième effet qui est un effet concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, alors ce qui est très intéressant, c'est que là, jusqu'à très récemment, les spécialistes du commerce international qui avaient regardé l'effet de la libéralisation des échanges commerciaux sur la croissance avaient surtout mis en valeur cet effet-là et un troisième effet. Mais l'effet concurrence n'avait jamais été bien regardé, ce qui est assez intéressant. Donc l'effet concurrence, c'est qu'en fait, eh bien, quand vous ouvrez au commerce, vous ouvrez la concurrence parce que il y a d'autres firmes qui exportent sur les marchés dans lesquels vous allez. Vous voyez, il y a d'autres gens. Vous allez par exemple en Chine, mais il y a d'autres pays qui importent en Chine. Vous voyez, et vous êtes en concurrence avec ces pays-là, quoi. Et donc, ça augmente votre concurrence. Ou bien, si tout d'un coup vous ouvrez vos importations, eh bien, vous avez la concurrence des producteurs étrangers qui viennent importer chez vous. Et cette concurrence, eh bien, elle peut avoir des effets positifs ou négatifs. On sait, j'avais déjà parlé des effets de la concurrence sur la croissance et l'innovation l'année dernière, j'en ai peut-être dit un mot cette année. C'est-à-dire que quand vous êtes une firme performante, ben, la concurrence vous incite à innover plus pour échapper à la concurrence. Quand vous êtes une firme en retard, eh bien, la concurrence peut tendre à vous décourager davantage. Donc on sait que la concurrence, elle a des effets quand même ambigus, mais il y a quand même un effet qui peut être positif. La première raison pour laquelle c'est positif, c'est parce que ça oblige les entreprises les moins productives à quitter le marché intérieur. Donc là, il y a un effet de composition, c'est que tout d'un coup, eh bien, les moins productifs quittent le marché, et ça veut dire que la productivité du marché intérieur va augmenter, puisque ça va évincer les firmes les moins productives. Et puis il y a un effet, ça c'est un effet, disons, de composition, on dirait, hein. Et puis il y a un deuxième effet d'incitation, c'est-à-dire que pour échapper à la concurrence des producteurs étrangers ou pour échapper à la concurrence en Chine des autres importateurs en Chine, eh bien je vais vouloir augmenter ma productivité en faisant davantage de recherche-développement pour innover davantage. Donc il y a quand même des raisons pour lesquelles la concurrence est bonne. C'est-à-dire, un, elle est bonne parce qu'elle élimine les firmes les moins productives au détriment des firmes les plus productives, et puis elle incite toutes les firmes à faire davantage d'efforts pour innover de façon à faire face à cette concurrence. Et c'est très intéressant que des gens qui ont travaillé sur croissance et échanges commerciaux, eh bien, c'est très, très récemment que moi, ces effets que moi j'avais mis en valeur, disons, pour la concurrence au sein d'un pays, ont été importés dans la littérature sur le commerce international et le commerce international et la croissance. C'est intéressant, ça date d'il y a 3 ans. Jusqu'à 3 ans, il n'y avait pas... Cet effet concurrence avait été négligé. C'est quand même un, et c'est un effet, en fait, de premier ordre. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième effet. Et celui-là, il est... Donc l'effet taille de marché, il est positif, sans ambiguïté. L'effet concurrence, il peut être positif ou négatif, ça dépend pour qui, quoi. Et on va regarder ça de manière plus détaillée plus tard. Et puis, il y a un troisième effet qui est un effet d'externalité, c'est-à-dire que le commerce, ça permet de faire circuler des idées. Et ça, quand on est en chinois, on le sait très bien, c'est-à-dire que, ben, on s'ouvre au commerce. D'avoir intégré l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a effectivement accéléré, eh bien, les transferts de technologies vers la Chine, quoi. C'est indéniable. Et ça, c'est un effet important. Et donc on s'attend à une... et donc évidemment ces effets vont être d'autant plus positifs pour les pays moins avancés. Il sera peut-être moins important pour les pays plus avancés. Encore que, on a vu la dernière fois que l'investissement en R&D du pays influe sur sa capacité à absorber les technologies plus avancées. Donc il y a un peu les deux côtés. C'est vrai que quand je suis moins avancé, eh bien, quand je fais un pas en avant, il sera plus gros, puisque je rattrape de plus. Mais d'un autre côté, si quand je suis moins avancé, je fais moins de recherche-développement, j'ai peut-être une absorptive capacity plus faible. Et donc, il y a un peu ces deux effets-là. Mais donc, vous voyez un peu les trois types d'effets, l'effet de taille du marché, l'effet concurrence, l'effet d'externalité. Le premier et le troisième ont déjà été analysés depuis plusieurs années dans la littérature sur le commerce international. Mais c'est l'effet concurrence qui n'a pas été regardé de manière appropriée. Et celui-là va jouer un rôle important également. Donc ça vous donne, ça vous plante un peu le tableau. Et évidemment, dans le commerce, il y a évidemment un des effets intéressants dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais ils sont un peu en filigrane. C'est qu'évidemment, l'ouverture au commerce, même si elle est bonne globalement, même si l'effet global sur la croissance est positif, ça fait des gagnants et des perdants. Typiquement, les gens qualifiés, les firmes avancées profitent, et les gens qui ne sont pas qualifiés ou les firmes qui sont plutôt en retard sur les autres firmes dans un secteur donné, elles vont tendre à être perdantes de l'ouverture au commerce. Et un des gros problèmes, justement, dans les pays qui ont fait des politiques de libéralisation, Reagan-Thatcher, c'est qu'ils n'ont jamais pris en compte les perdants. Même si, globalement, c'était bien d'ouvrir au commerce, ils n'ont jamais essayé vraiment de compenser les perdants ou d'accompagner les perdants et de les aider à se recycler. Et donc, il y a eu, évidemment, ce backlash, comme on dit en anglais, contre la globalisation, qu'on a également chez nous. Et donc, parce qu'on n'a pas su faire de manière intelligente, puisqu'en fait, on augmentait la taille du gâteau, il y avait sans doute moyen, avec des politiques de redistribution ou de qualification, il y avait moyen de faire en sorte que personne ne perde, vous voyez, que tout le monde puisse gagner quand même. Et ça n'a pas, c'est ça qui n'a pas été, à mon avis, fait dans les pays qui ont fait de la libéralisation à outrance. Voilà. Bon, ça, c'est un débat qu'on peut avoir quand vous voulez. Voilà. Alors, je pars maintenant à cette partie-là et je vais regarder... Alors, dans le commerce international, il y a la partie, import et la partie export. Donc, je vais maintenant mode plein écran. Je fais toujours un petit peu... Voilà. Donc, je vais parler d'abord donc, dans le commerce. Il y a libéralisation du commerce. Hein, libéralisation du commerce. Il y a la partie importation. Je libéralise les importations et je libéralise les exportations, évidemment. Ça me permet d'exporter plus. Et puis, après, je regarderai les idées, hein, l'importance des idées. Voilà, mais je vais d'abord regarder les importations. Donc, je vais parler d'abord, les deux premiers articles que je vais montrer, c'est sur les importations. Les deux articles suivants, ça sera sur le rôle des exportations, d'accord ? Et on va voir que c'est un peu différent, c'est pas exactement... C'est les mêmes effets qui sont en jeu, mais ils jouent un peu différemment, hein, d'accord ? Donc, on retrouve toujours mes mêmes amis, Bloom, qui est à Stanford, Van Rynen, qui est au MIT, et Draca, qui, je crois, est à Cambridge, Angleterre. Donc, ils regardent les effets des importations, de la libéralisation des importations sur les changements technologiques, et eux s'intéressent à l'Europe. Donc, ils s'intéressent particulièrement, donc leur papier ça s'appelle « The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity ». Quel est l'impact de la libéralisation des importations, et notamment qui ont permis une plus grande pénétration des importations chinoises en Europe et aux États-Unis, mais eux, ça focalise sur l'Europe, alors que l'article que je vais vous présenter après se focalise davantage sur les États-Unis. Quel effet ça a eu sur les brevets, hein, l'innovation mesurée par les brevets, sur l'adoption de technologies de l'information et des communications, le IT, et sur la productivité, la croissance de la productivité des entreprises en Europe et aux États-Unis. D'accord ? Donc, on va retrouver nos copains, l'effet de taille de marché, l'effet concurrence, l'effet d'externalité. On va regarder si ces effets jouent. Je vais vous montrer. Donc, en fait, si vous voulez, jusque-là, et c'est pour ça que c'est un article, si on regarde la littérature avant ce papier-là ou avant quelques autres papiers dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, il y avait un manque de données microéconomiques, quoi. On regardait essentiellement l'effet d'une plus grande ouverture du pays sur la croissance du pays. On raisonnait au niveau d'un pays. Il y a eu, par exemple, Frankel Romer, David Romer, hein, qui était un papier de 96, qui regardait l'effet sur la croissance d'un pays, d'une plus grande ouverture de ce pays, mesurée par, on augmente le volume d'export plus d'import divisé par le PIB du pays. Mais vous voyez, c'était fait entre pays. On regardait au niveau de pays, on comparait des pays qui s'ouvraient à des pays qui ne s'ouvrent pas, vous voyez ? Mais ça restait très macroéconomique. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on regarde au niveau des entreprises, et on regarde de manière très fine, on va plus vers la micro. C'est toujours la tendance que l'on suit, hein, dans tout ce qu'on fait. Et il y avait, évidemment, on pouvait pas, donc on manquait de données micro. Et puis l'autre chose, c'est qu'on montrait des corrélations. Nous n'avions pas de causalité. Il se peut très bien qu'on ouvre davantage au commerce parce qu'on est plus développé, et pas qu'on est plus développé parce qu'on ouvre davantage au commerce. Donc la causalité n'était pas bien analysée. Et donc, en fait, évidemment, comme il y a cette croissance très rapide des importations en provenance de la Chine et d'autres pays émergents, évidemment, il devient très important de comprendre s'il y a vraiment un effet causal du commerce avec ces pays et de différents paramètres de l'innovation et de la croissance dans nos pays à nous. D'accord ? Un des problèmes sur la causalité, c'est qu'on manquait d'expérience naturelle concernant le commerce nord-sud. Et là, ce que font Bloom et ses co-auteurs, c'est qu'ils explorent une expérience naturelle. Je vais commencer à vous présenter ça. Donc, cette slide, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une... Elle vous montre, en fait, ça représente la part des importations dans à la fois Europe et États-Unis en provenance de la Chine et des pays... Alors, tous les pays, c'est le gris clair, c'est tous les pays avec, où les salaires sont bas, hein, et le noir, c'est la Chine, qui est un sous-ensemble de ces pays. Et vous voyez que depuis 30, entre 80 et 2007, vous voyez qu'il y a vraiment une croissance importante et que d'ailleurs, il y a eu une accélération à partir de 90. Vous voyez qu'à partir de 90, du côté chinois, ça s'accélère. Vous voyez, la pente là est beaucoup plus forte que là. Hein. Donc, et on va comprendre pourquoi, c'est que la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ça a été quand même quelque chose de très important, l'adhésion de la Chine à l'OMC. D'accord ? Mais on voit que tout d'un coup, là maintenant, en termes d'importation en Europe et aux États-Unis, la Chine, ça croît très très vite. Et on veut comprendre l'effet de cette chose-là. D'accord ? Première figure. Donc, on observe depuis le milieu des années 90 une hausse marquée des importations en provenance des Chines et des pays émergents, à la fois en Europe et aux États-Unis. Quelle est la conséquence de cette importante hausse des importations sur l'innovation, sur l'adoption de technologies de l'information et sur la croissance de la productivité des entreprises en Europe et aux États-Unis? Alors là, maintenant, ces auteurs se focalisent sur l'Europe, tandis que le papier suivant va regarder les États-Unis. Alors, les données, c'est des données d'entreprise. Donc, on a d'abord les données de brevets, puisque donc toujours les mêmes, hein. Mais là, on se restera à 12 pays européens sur la période 1996-2005. C'est le European Patent Office, je vous en ai déjà parlé. Et on connaît le nom de l'innovateur, on connaît son adresse, on connaît les citations, on connaît plein de choses. D'ailleurs, il pourrait regarder beaucoup plus de choses qu'il ne regarde sur les brevets. Il pourrait regarder les citations beaucoup plus. Ça, il ne le regarde pas, mais ils auraient pu le faire. Ensuite, on peut regarder, quand on veut regarder l'impact sur, donc, quand on voudra regarder l'impact sur l'innovation, c'est par les brevets qu'on va mesurer ça. Quand on veut regarder l'impact sur l'adoption, sur la productivité totale des facteurs ou la croissance de la productivité totale des facteurs, eh bien, on a des données de pays sur la productivité. Donc ça, on regarde, mais on a également des données de firmes. On connaît au niveau de la firme la productivité de la firme dans ces pays-là. Donc ça, c'est des données quand même qui sont très, très, très bonnes. On a des données. On a également la troisième, c'était sur l'adoption de technologies de l'information. Et là, on connaît le nombre d'ordinateurs par employé dans chaque entreprise. Et donc ça, c'est important. Et on a, pour un plus petit échantillon, on connaît également les dépenses en R&D. Et Bloom et ses co-auteurs, Bloom Van Drinnen et d'autres co-auteurs, ont fait un survey mondial sur la qualité du management. Voilà, sur management practices. Je vous en avais parlé déjà de management practices. Je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Et là, ils ont ces données et donc ils vont utiliser évidemment également les informations qu'ils ont, mais c'est sur des échantillons plus petits d'entreprises, hein, puisque là c'est un survey, donc c'est pas tout le monde. On a disons une manière aléatoire de sélectionner. Voilà, les données de commerce, elles sont classées par secteur d'activité et la mesure principale, c'est le ratio entre les importations provenant de Chine et les importations totales, d'accord ? Donc ça, c'est la part des importations chinoises par rapport au total des importations. Donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, on regarde le changement dans les importations de Chine vers l'Europe. Et c'est les augmentations en 5 ans, entre 2000 et 2005, c'est l'augmentation, disons, alors on va au-delà de... c'est quoi ? C'est l'augmentation du ratio d'import sur la production, c'est ça, non, je pense. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir que, par exemple, dans l'ameublement, là, l'augmentation de l'importation chinoise est très importante. Apparel, c'est les vêtements, hein, habillements, apparel, en fait. Ce n'est pas les appareils, hein, c'est les apparats, non, pas apparats, je ne sais pas comment. Le cuir, les jouets, les objets métalliques, le textile... Et alors, par contre, évidemment, les produits chimiques, etc., ça, c'est beaucoup moins. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est très intéressant. Vous voyez différents secteurs. Et donc, vous pouvez regarder. Alors, évidemment, eux, ils vont se pencher sur les textiles. Mais ça, c'est intéressant de voir comment la pénétration chinoise a augmenté différemment selon différents secteurs. Voilà. Donc, c'est intéressant à explorer, vous voyez, pour faire davantage de travail. À chaque fois, je vous montre certaines choses que font les auteurs, mais en fait, avec les données qu'ils avaient, ils auraient pu faire beaucoup plus de choses. Mais la recherche ne va qu'à une certaine vitesse, malheureusement. Elle est très lente, la recherche. Voilà. Donc, on regarde l'effet du commerce sur l'innovation. Alors, il y a deux choses. Ils vont regarder ce qu'on appelle... vous vous souvenez, quand j'ai parlé de l'effet de la concurrence, j'ai dit qu'il y avait deux effets. Il y avait un effet de la concurrence qui était un effet, disons, de between firm effect, c'est-à-dire c'est un effet qui amène à réallouer l'activité des entreprises les moins performantes vers les entreprises les plus performantes, un effet de composition. On appelle ça un between firm effect. mais vous avez également un effet dans chaque entreprise, ça pousse chaque entreprise à faire davantage d'innovation pour survivre à la concurrence des produits chinois. Donc, et eux sont capables de quantifier qu'est-ce qui est l'effet between firm et l'effet within firm, d'accord, de cette concurrence accrue dans les importations, de cette concurrence accrue sur le marché européen due à l'augmentation des importations en provenance de Chine. Vous êtes encore vivant ? Vous êtes formidable, j'espère. Bon, alors donc on va regarder ça. Donc c'est la seule équation que je montre dans ce papier-là. Il y en aura une autre dans un autre, mais c'est vraiment minimal. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que je régresse alors une variable qui sera où le nombre de brevets, le log du nombre de brevets, ou le log de la productivité totale des facteurs, ou le log de l'utilisation de IT, ou le log des dépenses en R&D, ou le log de l'indice de la qualité du management. Ça, c'est ce que j'ai à gauche. Et je veux voir comment cet animal, que je considère, que ce soit l'un ou l'autre, est affecté par l'augmentation dans le secteur considéré, dans l'industrie considérée, des importations en provenance de la Chine. Donc, je prends une usine. Quand je dis usine, c'est en fait un établissement. Donc, je permets de regarder une firme, si vous voulez, une firme typiquement, c'est plusieurs établissements. Enfin, il y a des firmes qui n'ont qu'un établissement. Mais une firme, elle peut avoir, par exemple, LVMH, ils ont plusieurs établissements. Hein. Et vous avez les établissements, vous avez des données, ils ont des données au niveau de l'établissement. Évidemment, quand vous agrégez, vous avez la firme au complet. Donc, et une firme, elle est dans une industrie. D'ailleurs, peut-être différents établissements ne sont donc pas tout dans la même industrie. La firme, elle peut réunir différents établissements qui appartiennent à des industries différentes. Donc, le I, c'est l'établissement. D'accord. Et J, c'est l'industrie dans laquelle l'établissement se trouve. K, c'est le pays, d'accord, et européen que vous considérez. T, c'est l'année. Et ça, c'est les importations, la part des importations provenant de Chine dans l'industrie J, dans le pays K, autant T, d'accord. Et c'est ça qu'on veut, on contrôle pour des effets de pays, des effets de secteur, etc. Donc voilà ce qu'on essaie de regarder. Hein. Donc on va voir l'augmentation de ça. Quel est l'effet de l'augmentation de la part des imports sur ces variables qui reflètent, disons, eh bien, l'innovation et la croissance des firmes. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est cette chose-là. Vous voyez déjà là, vous avez un premier tableau qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous regardez l'innovation, ben, vous voyez que l'augmentation des importations chinoises est significativement corrélée avec l'augmentation des brevets. Vous voyez ? Vous voyez que l'augmentation des importations chinoises est significativement corrélée avec l'augmentation de l'utilisation des technologies d'information et de communication par la firme en France ou en Italie, que l'augmentation des imports chinois est positivement corrélée avec l'augmentation de la productivité, d'accord, et également avec les investissements en R&D et également avec la qualité du management. Donc finalement, de ce point de vue-là, on se dit, mais c'est génial, les importations chinoises, ça nous fait être plus innovants, on est plus productifs, on a une qualité du management qui est bien meilleure, et on fait davantage de recherche-développement. D'accord ? Donc ça, c'est quand même une vision assez idyllique de l'augmentation du commerce. Vous voyez, ça nous stimule, la Chine. Hein ? Ça nous pousse à faire mieux. Voilà. Donc ça, c'est le truc. Vous voyez, on a vraiment tous ces niveaux technologiques de l'entreprise où les différentes valeurs, on voit vraiment importation chinoise est corrélée positivement. Et tout ça, c'est des within firms. Hein. Ça, on regarde là, c'est des choses que font les firmes conditionnellement à rester dans le marché. Donc ça, c'est déjà des effets qui sont uniquement sur les firmes existantes. Vous voyez, elles font mieux, elles essaient de faire plus. Donc déjà ça vous produit de la croissance en Europe. Mais il y a un autre effet qui va être un effet ce qu'on appelle en anglais de cleansing, de nettoyage, c'est-à-dire que les firmes les moins efficaces, eh bien, vont laisser la place aux firmes les plus efficaces, d'accord ? Donc ça, c'est l'effet de between. Mais enfin, déjà, je reste sur l'effet within. Évidemment, là, j'ai montré des corrélations, mais on pourrait tout à fait imaginer que ce n'est pas une causalité. On pourrait imaginer que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu un choc technologique positif en Europe, indépendant de la Chine, et que cet effet, c'est ce choc technologique, eh bien, augmente l'output technologique, R&D, productivité, utilisation de technologies d'information, et en cela rend plus difficile l'accès au marché de la Chine. Et donc, mais à ce moment-là, si ça c'est vrai, ça veut dire que notre coefficient sous-estime l'influence des importations chinoises sur le changement technique. Parce que là, on a un effet qui ne passe pas par la causalité et qui, en fait, impliquerait une corrélation négative entre les imports chinois et la technologie en Europe, alors qu'on observe une corrélation positive. Ça veut dire que, quelque part, probablement, nous avons sous-estimé l'importance de l'effet causal des importations sur le changement technique et la croissance des firmes en Europe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, Bloom et ses co-auteurs vont explorer un instrument. Vous savez toujours que quand j'ai un problème de causalité, eh bien, je cherche à construire un instrument. Et l'instrument qu'ils vont construire, c'est une expérience naturelle. Et l'expérience naturelle, c'est simplement que l'entrée de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, qui, en fait, donc ils se concentrent sur les textiles, en fait, et le vêtement. Et avant d'être membre de l'OMC, les Chinois étaient sujets au Multi-Fiber Agreement, qui était très, très, très contraignant, avec beaucoup de quotas, etc. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment, donc il l'était depuis 1974, hein, et à partir du moment où il intègre l'OMC, eh bien, il se libère du Multi-Fiber Agreement. Et ça, évidemment, ça va permettre d'augmenter énormément la pénétration chinoise dans les secteurs textiles, dans les pays européens et aux États-Unis. Et c'est ça que ces auteurs analysent, d'accord ? C'est l'effet de ça qu'ils analysent. Alors, il faut savoir que le secteur textile est responsable de 31 000 brevets sur la période considérée. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est gros, quoi. C'est un gros secteur. Donc, c'est intéressant de voir l'effet sur ce secteur, d'accord ? Et en fait, effectivement, quand on avait le coefficient sur le Haïti que j'ai repris du tableau précédent, qui est 1.2, de l'augmentation des imports chinois. Ça, c'était la régression où je régressais tout bêtement l'utilisation IT, hein, le nombre d'ordinateurs sur l'importation chinoise. Et alors que maintenant, quand j'instrumente l'augmentation de l'importation chinoise par l'entrée dans l'OMC, eh bien, je vois que l'effet est plus grand. Effectivement, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait peut-être des raisons de penser que je sous-estimais l'importance de l'effet causal. Et en effet, quand je prends en compte l'effet causal, eh bien, je trouve un coefficient plus grand ici qu'ici, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Il y a vraiment un effet. L'effet causal est plus important que ce que la corrélation simple me suggérait. Voilà. Donc, vous voyez, l'effet corrélation était là et l'effet causal est plus gros, plus pentu que l'effet qu'on mettait en évidence avec juste les corrélations. Voilà, alors, donc, on regarde ça, les effets IV, ça, c'est pour les brevets, et ça, c'est sur la TFP, puisque j'avais regardé avant sur le IT, mais c'est pareil sur les brevets, quand je passe de l'OLS à l'instrument, j'augmente l'effet, et pareil, quand je regarde le log de la TFP que j'instrumente, l'effet est presque deux fois plus grand quand je passe du OLS à l'instrument. Vous voyez, donc à chaque fois, j'augmente l'importance de l'effet. Donc ça, c'est vraiment le papier de Bloom et Hall. Tout le reste, après, c'est de la sophistication. Mais une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essence de leur papier, disons, en partie. Alors, c'est pas tout, parce que maintenant, on avait regardé le within effect. On avait dit, voilà, étant donné que vous êtes une firme qui reste, est-ce que vous allez faire davantage d'innovation, d'investissement dans IT d'augmentation de la productivité. Mais maintenant, je veux regarder s'il y a un effet de composition. C'est-à-dire que je vais regarder maintenant l'emploi. Vous voyez, je veux savoir si, par exemple, l'emploi dans le secteur est davantage le fait de firmes plus avancées ou moins avancées. Donc déjà, une première manière de le regarder, c'est de différencier selon qu'on est high-tech ou pas high-tech. Donc ça, c'est une demi-tech. Si on est high-tech, cette demi vaut 1. Si on est low-tech, cette demi vaut 0. D'accord ? Donc, on distingue entre high-tech et pas high-tech. Et ce qu'on aimerait, c'est que l'effet soit surtout positif pour les high-tech et négatif sur les low-tech. C'est-à-dire qu'en gros, on veut expliquer ici que si on augmente les importations, eh bien, l'emploi va augmenter dans les high-tech et va diminuer dans les low-tech. Et d'ailleurs, si on voulait regarder les salaires, c'est ça qui va se passer aussi. Les salaires des high-tech vont augmenter, typiquement les salaires des low-tech, relativement, vont diminuer. Et c'est exactement ce qu'on va trouver, c'est-à-dire qu'on voit que l'effet total de l'import sur les brevets diminue, mais il diminue moins si on est high-tech, vous voyez, donc c'est le... Et là, on mesure high-tech, low-tech par le stock de brevets. Il y a plusieurs manières de mesurer high-tech, low-tech. Là, on mesure high-tech, low-tech ici par le nombre de brevets. Mais on peut le mesurer également par le nombre d'ordinateurs que j'ai au début. Ça, c'est une autre manière de mesurer high-tech, low-tech. Et de la même manière, si je suis une entreprise qui avait déjà beaucoup de IT, j'utilisais beaucoup le IT avant, c'est une autre manière de mesurer high-tech. Eh bien, on voit que là, l'effet est positif. Et pareil, si j'étais une firme qui était très productive avant, c'est encore une troisième manière de mesurer que j'étais plutôt une firme frontière par rapport à pas frontière, eh bien, je profite beaucoup plus. Donc ça, c'est très dans l'esprit de l'effet de concurrence quelque part. C'est-à-dire que ça suggère que typiquement, il y a un effet de concurrence qui se passe. C'est-à-dire que si je suis près de la frontière, je suis stimulé par l'importation chinoise, tandis que si je suis loin de la frontière, je tends à être découragé par l'importation chinoise. Ça, c'est très dans l'esprit de ce que j'avais raconté quand je parlais de concurrence et d'innovation précédemment. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, ça c'est ce qu'on montre. Donc, c'est intéressant parce que là, c'est des effets de composition. On regarde qui grossit et qui est rapetissé. C'est qu'on voit que les entreprises qui prennent de l'ampleur, c'est les entreprises high-tech ou qui sont déjà productives au détriment des entreprises qui sont moins productives. Donc, il y a un effet, pas seulement que chaque entreprise fait davantage en termes d'innovation, mais que la part de marché ou l'importance relative de la taille, de la part de l'emploi qui relève d'entreprises high-tech augmente par rapport à la part de l'emploi des entreprises low-tech. Donc, c'est intéressant. On voit cet effet de composition qui fait vraiment référence à l'idée qu'il y a certainement un effet de taille, mais il y a un effet de concurrence qui joue positivement pour les gens qui sont déjà frontières et plutôt négativement pour ceux qui sont loin de la frontière technologique. D'accord ? Alors, on regarde un autre résultat qui est survival, c'est-à-dire qui regarde la probabilité de survive. C'est une variable qui vaut 1 si vous êtes encore en vie à la fin de la période et qui vaut 0 sinon. Et à nouveau, l'idée, c'est de dire, ben, normalement, l'importation chinoise devrait réduire votre probabilité de survival, sauf si vous êtes high-tech, auquel cas, ça peut-être même l'augmenter. Et c'est exactement ce qu'on trouve. On trouve un effet négatif ça, c'est quand on mesure le high-tech, low-tech par brevet, là, par IT, là, par TFP. On voit essentiellement que brevet, ça a un effet négatif sur le survival quand vous êtes low-tech, mais quand vous êtes high-tech, ça tend à... c'est quand vous êtes high-tech mesuré par brevet, high-tech mesuré par IT, mais comme je démarre par IT, là, c'est normal que ce ne soit pas significatif, et là, c'est high-tech mesuré par la productivité initiale. Donc, en gros, j'ai davantage de sens de survivre si je suis high-tech que si je suis low-tech, que l'on mesure high-tech par les brevets ou par la productivité initiale ou par l'utilisation initiale des ordinateurs. D'accord ? Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant de montrer ces résultats. Alors, ensuite, ils essaient de décomposer qu'est-ce qui est effet within firm et between firm. Et vous voyez que c'est très sympa parce qu'en termes d'effet sur l'augmentation des brevets, ils voient qu'il y a le within, c'est 4,6, le between, c'est 7,6, et au total, l'exit, c'est 2. Et au total, il y a un effet d'augmentation des brevets de 15, mais qui est dû en partie au fait que les gens conditionnellement arrêtés ont fait plus, et puis le reste, c'est le fait qu'on alloue de l'emploi davantage vers les firmes productives, et le troisième, c'est dû au fait que les gens les moins productifs s'en vont, et vous voyez que le total fait à peu près 15%. Et c'est pareil, l'effet sur le IT, c'est à peu près 15%, décomposé là en within 9,8, between 3,1, exit 1,2, et l'augmentation de la productivité des facteurs, le within, et là c'est le gros du gâteau, le between 4,4, et l'exit c'est tout petit là-dessus. Mais vous voyez, on arrive toujours à peu près à 15%, et quand même, sauf pour les brevets, sur les autres c'est surtout du within, et pour brevets, c'est du between. Donc, c'est intéressant qu'ils peuvent décomposer à chaque fois l'effet between et l'effet within dans cette étude. Donc, c'est assez joli. Ils ont donc montré que la libéralisation des imports en provenance de Chine sur les firmes européennes de textile, d'abord, il y a un effet within firm, c'est-à-dire au sein des firmes, on voit davantage d'innovation, d'adoption de technologies IT, et d'augmentation de productivité. Deuxièmement, on voit ça induit de la destruction créatrice, c'est-à-dire de la réallocation d'emplois des moins productifs vers les plus productifs et un exit des firmes les moins productives. Et l'effet est économiquement important. Les importations provenant de Chine représentent environ 15% de la hausse en IT ou en brevets ou en productivité. Donc c'est un papier assez sympa parce que ça vous montre quand même l'importance de la libéralisation du commerce. Vous voyez, ça nous fait du bien, le commerce. Il ne faut pas arrêter. Il a tort, M. Trump, de dire que la Chine, c'est notre ennemi. Parce que vous voyez, la Chine, ça donne beaucoup de bonnes choses. Mais peut-être a-t-il lu le deuxième article qui est celui d'auteur. C'est ça le problème. Voilà. On lui a mis un mauvais papier. Alors, je voulais pour vous montrer simplement que vous voyez, l'économie, ce n'est pas toujours évident et que des fois, il faut se poser des questions. Je vais passer à un article qui est un peu déroutant parce qu'il me donne quelque chose que je ne voulais pas. Et je veux comprendre pourquoi il a obtenu ça. Mais c'est quand même quelqu'un de très important. Justement, c'était marrant parce que juste avant le cours, je reçois un appel de Sophie Fett de Nouvelle Obs qui me demandait les coordonnées de Hauteur. Voilà. Et donc, j'étais en plein dessus, quoi. Donc, ça tombait bien. Mais, et donc, Hauteur, il regarde la même chose que Blum et Hall, mais il dit une chose très différente. Et je ne comprends pas bien, et c'est des gens très compétents. Et donc, ils font une analyse, ils essaient de réconcilier leurs résultats avec ceux de Blum et Hall, du premier papier que je viens de vous montrer. Je vais vous en parler assez rapidement. Mais moi, j'ai un peu des doutes, mais bon, voilà. Alors, évidemment, eux, ils disent, voilà, ils disent, ben, écoutez, on voit le côté positif, mais il y a des côtés quand même négatifs de l'ouverture au commerce avec la Chine. Donc là, on vient peut-être plus vers M. Trump, mais je ne vais pas accuser Acemoglu d'être un soutien de Trump, quand même, dit Hauteur. Acemoglu me disait qu'il trouvait que Trump, c'était pire qu'Erdogan. Alors, il est turc, hein, dis donc. C'est fou, hein, quand même. Donc, il faut qu'il n'aime pas Trump. Hein. Voilà. Donc, il regarde la même chose et il regarde sur les brevets aux États-Unis, donc pas sur l'Europe. Et au lieu de se concentrer sur l'industrie textile, il se contente sur toutes les industries. Il regarde toutes les industries. Seulement, la chose, c'est qu'il ne regarde que les grosses firmes. Donc, je me demande si une des limitations de l'analyse d'Hauteur, c'est pas qu'il regarde que les grosses boîtes. C'est des boîtes qui sont listées, les boîtes Compustat. Les entreprises qui sont dans Compustat, c'est des entreprises quand même grosses. Donc, je ne sais pas si parce qu'ils se limitent à ces grosses boîtes qui, typiquement, réduisent leur taille et donc réduisent tout, y compris la R&D. C'est quand même... Voilà. Et c'est là que je suis un petit peu sceptique. Je veux comprendre. Je ne crois pas dans les résultats d'Hauteur, pour vous dire la vérité. Je vous les montre parce que je veux montrer tout. Mais profondément, je pense qu'il y a, comme on disait en français, il y a un truc, comme on dit. Il y a quelque chose là, il y a du loup, là, je ne sais plus ce qu'elle disait. Les industries manufacturières américaines sont particulièrement exposées aux imports provenant de Chine. Il y a des délocalisations, il y a des réductions d'effectifs, il y a des revenus moins importants pour les salariés. Ça, on est tous d'accord. Et alors, évidemment, on peut dire, ben oui, mais les effets négatifs peuvent masquer des effets plus positifs. Donc, ils citent Blum, ils disent effectivement, nous avons bien vu ce papier-là que je viens de vous montrer. Les entreprises européennes, en réponse à une plus grande concurrence des importations chinoises, créent plus de brevets, augmentent les investissements dans les technologies de l'information et augmentent la croissance de leur TFP. Est-ce vrai également pour les États-Unis ? Et bon, alors évidemment, la base de leur truc, c'est un travail que j'avais fait moi-même avec Peter Howitt et d'autres dont je vous ai parlé l'année dernière beaucoup. Et je vous montrais que si on regardait la relation entre concurrence et croissance, en gros, c'est une courbe en U. Si on démarre de peu de concurrence, augmenter la concurrence augmente l'innovation et la croissance. Mais si vous démarrez déjà de beaucoup de concurrence, augmenter encore la concurrence, eh bien, réduit les rentes et tend à réduire la croissance. Donc, leur vision à eux, pour être poli avec Blum et Hall, c'est de dire, voilà, les Européens, ils sont là, et les Américains, nous, on était là. Donc, augmenter la concurrence chez les Européens, c'est bien pour eux, mais aux États-Unis, c'est mauvais. Vous voyez ? Voilà, ça réconcilie tout le monde. Moi, je suis moyennement convaincu. Mais bon, why not, comme on dit, hein ? Voilà. Bon, donc vous gardez ça en tête. Je vous montre quand même ce qu'ils font. Et après, c'est à vous de faire votre propre opinion. Mais ça vous montre que la recherche va continuer. Certainement qu'on va essayer encore de comprendre plus loin pourquoi ces deux papiers trouvent des choses différentes. Est-ce que c'est cette explication-là ou d'autres explications ? Donc, les données qu'ils regardent, c'est des données de commerce international. Mais ils se restreignent à des entreprises grosses. Donc, il montre bien que la part des importations d'origine chinoise au sein des secteurs manufacturiers dans le monde a augmenté. ça, on est d'accord. Mais eux, ils se restreignent aux compustat, donc c'est des grosses. Ils se restreignent aux industries manufacturières et les grosses entreprises. Donc moi, j'aimerais quand même comprendre, et là, c'est pour quelqu'un qui veut faire de la recherche, est-ce qu'en faisant ça, déjà, ça ne biaise pas leurs résultats? Et pourquoi ça biaise leurs résultats de cette manière? Voilà, moi, je crois que c'est là-dessous. Il y a quelque chose sur ce tapis-là, quoi, que je ne peux pas vous dire. Donc ça, la recherche doit continuer. Donc à vous de faire la recherche, d'essayer de comprendre pourquoi choisir manufacturier Compustat, ça biaise le résultat dans la direction opposée de celle de Bloom et al. D'accord? Donc, ils ont les brevets, ils ont un matching entre les brevets et les données d'entreprise, Compustat. Et donc, déjà, on peut regarder Donc, ça, c'est, on voit que, eh bien, il y a une augmentation des brevets, régulière. Ça, c'est les augmentations des brevets quand les importations chinoises. Mais vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'ils disent, regardez là, les importations chinoises n'ont pas trop augmenté. C'est là qu'elles augmentent vraiment. Et là, vous voyez que le nombre de brevets augmente moins aux États-Unis, dans ma base Compustat. Vous voyez qu'il y a une augmentation, mais que là, elle augmente. Et voyez, regardez, ça, cette courbe en dessous, je ne sais pas si vous voyez cette courbe, ça, c'est les importations de Chine aux États-Unis. Et vous voyez, c'est assez plat, en fait, ici. Vous ne voyez pas, parce qu'elle n'est pas là. Mais si je devais la tracer, elle serait assez plate, cette courbe. Et elle commence vraiment à augmenter là. Et c'est vraiment là qu'elle décolle. Et quand elle décolle, vous voyez que les brevets dans le secteur des grosses firmes manufacturières américaines tentent à se réduire légèrement, ou en tout cas à plafonner. Donc, maintenant, on pourrait plus dire, mais ça, c'est simplement parce qu'il y a une vague technologique, qui est la vague des IT. Et en 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Et puis voilà, ça a ralenti la croissance de la productivité ou les brevets aux États-Unis, et indépendamment de la Chine. Mais eux eux pensent qu'il y a un lien. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que le ralentissement aux États-Unis, il est dû au fait que vous avez une vague technologique qui s'épuise à un moment donné, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague reprenne. Mais eux font le parallèle entre ça et les importations et les importations chinoises. Donc voilà, ben, poussons leur point de vue. Hein. À nouveau, je ne sais pas la causalité là-dedans. D'accord ? Donc, je continue leur point de vue. C'est quand même des gens, Autor, c'est quand même quelqu'un de très compétent sur ce qui est commerce et inégalité de salaire et technologie. Sur ce triangle-là, Autor est quand même un des meilleurs économistes mondiaux. Donc, je ne peux pas simplement dire qu'il dit des bêtises et que je dois l'ignorer, quoi. Moi, je ne peux pas faire ça. Voilà, ça ne se fait pas. Alors, donc là, c'est intéressant parce qu'on regarde différents secteurs. Et vous voyez que ça, c'est le nombre de brevets. Et vous voyez qu'il y a eu, évidemment, une explosion. On voit bien la vague, là, dans le secteur des ordinateurs. Et c'est retombé. Évidemment, dans d'autres secteurs comme la chimie, c'est beaucoup plus plat, vous voyez. Donc, ça dépend. Donc, le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure est quand même très entraîné par le IT. Mais la vague est dans le IT, justement. Donc, c'est quand même intéressant de se demander, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça. Voilà, c'est intéressant de voir. Alors, ce diagramme-là est assez spécial, parce que, en fait, l'axe horizontal, c'est la croissance des importations dans différents secteurs. Vous voyez que la pénétration de Chine, elle a beaucoup augmenté dans les ordinateurs, plus que dans la chimie, vous voyez. C'est intéressant. Et en même temps, si vous voulez, vous aviez l'augmentation des brevets entre 75-91, qui est le centre du cercle rouge, et l'augmentation des brevets entre 91 et 07, qui est le centre du bleu. Là, on voit que ça tombe. Si vous allez du centre du rouge au centre du bleu, ça tombe. Si vous allez là, du centre du rouge au centre du bleu, ça décroît, mais un petit peu moins. Et là, c'est le contraire, ça augmente un peu. Donc, c'est intéressant, c'est de montrer que ça suggère, si on regarde très globalement, qu'effectivement, là, on retrouve Bloom. On dit là où l'importation chinoise a augmenté le plus, c'est les ordinateurs, et par rapport à la chimie, et on voit qu'effectivement, si on regarde à ce niveau d'agrégation-là, eh bien, dans les secteurs grossièrement définis comme les ordinateurs ou la chimie, eh bien, la pénétration en import chinois a plus augmenté dans les ordinateurs, et l'augmentation des brevets a été plus grande en Chine, dans les ordinateurs que dans la chimie. Donc, si vous voulez, c'est... grossièrement, si on regarde très largement, on se dit, Bloom a raison. D'accord ? Donc, a priori, si on regarde sans prendre un microscope, on se dit que la corrélation entre le commerce et les brevets peut sembler positive en première approche, en suivant cette approche sectorielle très large. Donc jusqu'à maintenant, on se dit, voilà, ils ont retrouvé Bloom, au lieu de regarder juste le textile, ils ont regardé différents secteurs, mais il se peut que ça soit dû aussi à la spécificité des secteurs. Donc ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de regarder, ils vont se placer dans l'intérieur de chaque secteur au niveau des firmes, et ils vont regarder des effets où ils contrôlent pour les effets fixes secteurs. Voilà. Ils font abstraction des différences qu'il y a d'un secteur à l'autre. Et là, ils trouvent des choses différentes. Donc ils font une régression où ils régressent l'augmentation du nombre de brevets pour la firme I dans l'industrie J durant la période T en fonction de cette variable. Et cette variable, c'est, si vous voulez, l'augmentation de la part chinoise dans votre vie, quoi. Votre vie, c'est quoi ? C'est votre taille, c'est votre production et vos imports. Cette variable-là, elle est petite si, par exemple, les importations chinoises représentent très peu par rapport à votre production. C'est également un nombre petit si les importations chinoises sont petites par rapport à vos importations. D'accord ? Et par contre, c'est grand si les importations chinoises sont soit grandes par rapport à votre production, soit grandes par rapport à vos importations. C'est-à-dire que c'est important pour votre vie. Si je suis très gros, que je produis beaucoup, même si j'importe que de la Chine, mais que ce que j'importe de la Chine, c'est tout petit par rapport à ma production qui est grosse, ça ne change pas ma vie, la Chine, d'accord ? Si je produis peut-être pas beaucoup, mais j'importe de beaucoup d'autres pays, et que l'importation de la Chine, c'est très peu par rapport à ce que j'importe d'ailleurs, aussi la Chine, ça ne change pas ma vie. C'est une variable qui mesure dans quelle mesure la Chine change votre vie ou pas, quoi. Voilà. Ça a l'air très simple à expliquer, on est passé une demi-heure avec Simon pour arriver à ça. Et dans la définition des auteurs, donc l'industrie est un niveau de découpage plus fin que le secteur, d'accord ? Donc, voilà. Et alors, ce qui montre, c'est qu'intéressant, c'est que quand je ne contrôle pas pour le secteur, je ne vois pas d'effet de la concurrence. Et quand je contrôle pour le secteur, eh bien, je vois un effet négatif de la concurrence, que ce soit en OLS ou ils font sinon une instrumentation. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent faire par des variables retardées, je pense, l'instrumentation. Donc, c'est un instrument faible qu'ils utilisent, à mon avis. Ce n'est pas aussi joli que Bloom et al. Hein. Je ne pense pas qu'ils fassent une expérience naturelle. À mon avis, ils font des variables retardées comme instrument. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, ils trouvent, disons, a priori, c'est quand même curieux qu'ils aient un effet négatif. C'est comme si, vous voyez, je vous avais dit dans l'effet concurrence, il y avait un effet plus et un effet moins. Et c'est curieux qu'ils trouvent surtout un effet négatif. D'autant plus curieux qu'on pourrait se dire que les États-Unis ont plus de firmes frontières que les pays européens. Donc moi, je vous ai toujours dit, la concurrence, ça stimule l'innovation dans les firmes frontières et moins dans les firmes pas frontières. Alors peut-être parce qu'ils se restiennent à des grosses firmes qui ne sont peut-être pas les firmes frontières dans leur secteur. Vous comprenez, c'est là que j'ai, moi, un questionnement. Vous voyez, mais c'est important que je vous montre des papiers, qu'on les critique ensemble pour que vous restiez avec des questions, vous voyez. La relation devient négative une fois que l'on contrôle par les tendances globales des différentes industries au sein des secteurs. En effet, l'exposition à la concurrence semble corrélée avec la tendance passée du nombre de brevets. Il faut donc contrôler pour cette tendance pour évaluer l'impact direct. Et là, il regarde d'autres définitions des secteurs. Des définitions sont plus historiques, par segment, etc. Et il trouve toujours un coefficient négatif. Donc, ils ont un résultat robuste, c'est des gens sérieux. Ils ont fait leur truc sérieusement. Et on veut comprendre pourquoi ils ont trouvé quelque chose d'aussi différent de ce que Bloom et al. Ont trouvé. Et la vérité, c'est qu'ils ne savent pas vraiment. Et une explication qu'ils donnent, c'est qu'ils disent, regardez, eh bien, on voit, on peut regarder la R&D, on peut regarder l'innovation, mais on peut regarder d'autres variables comme les ventes, comme l'emploi, comme le capital, comme l'investissement en capital. Et vous voyez que toutes ces variables sont négativement affectées. Donc, ce qu'ils semblent dire, c'est que dans les entreprises qu'ils ont regardées, qui à nouveau sont les grosses entreprises du secteur manufacturier, eh bien, l'augmentation des importations chinoises semble avoir réduit l'activité de ces entreprises. Ils ont baissé tout, surtout, vous voyez, je veux dire, ils ont réduit la voilure, surtout, quoi, y compris sur la R&D. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont réduit la voilure. Mais à nouveau, ce sont les entreprises manufacturières déjà grosses. On ne regarde pas l'entrée de petits. Et on ne regarde pas, vous voyez, la dynamique des firmes dans ces secteurs. C'est ça qui manque dans ce papier. Et là, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses qu'eux ne regardent pas. C'est peut-être un effet de cleansing partiel, c'est-à-dire qu'on réduit la voilure dans les ans existants, mais peut-être que des nouveaux plus efficaces rentrent en même temps. Et que ça, ils ne le capturent pas. peut-être qu'il ne capture qu'une partie du between firm effect de Blum et al. Ça, c'est moi mon interprétation. Mais ça, c'est, ça, c'est ce que je vais dire à hauteur. Quoi. Mais moi, ça, c'est mon interprétation. Voilà. Donc, eux pensent que c'est l'histoire de U inversé, qu'il y a trop de concurrence aux États-Unis ou pas assez. Moi, je pense que c'est une partie d'un between firm effect qu'en fait, ils sont en train de capturer. Mais là, évidemment, il faut plus d'analyse pour, parce que chacune de ces explications aurait des implications, des prédictions différentes à tester. Et là, vous voyez, quand je vous ai toujours parlé du va-et-vient entre les données et la théorie, j'ai plusieurs théories pour expliquer leurs données. Maintenant, chacune a des implications différentes. Il faut maintenant retourner aux données avec ces différentes explications pour voir laquelle est juste et laquelle ne l'est pas. Cette recherche-là n'a pas encore été faite. D'accord ? Donc, s'il y a des gens qui sont en thèse ici, sujet de thèse pour vous. Hein. Et on a des données de firmes françaises pour faire ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Si on pensait le faire avec Mathieu, justement. Et c'est un truc qu'on pourrait regarder. On en parlait au téléphone. On se disait, tiens, mais pourquoi on ne fait pas ça nous-mêmes ? Voilà. Donc, c'est marrant, vous voyez, de préparer un cours, ça donne vraiment des idées de recherche. D'accord ? Donc, là, c'est pareil. On pouvait croire aussi que c'était un problème de substitution d'inventeurs. Vous voyez, on fait moins de R&D par des Américains et plus par des Chinois. Mais ce n'est pas vrai parce que qu'on regarde seulement les US inventors, les foreign inventors ou all inventors, vous savez que dans les brevets européens, on connaît l'identité et la nationalité des inventeurs, qu'on se restreigne aux inventeurs américains ou qu'on regarde des inventeurs étrangers américains, l'effet est toujours de réduire la voilure sur ces entreprises Compustat. Donc c'est quand même intéressant. Et voilà, donc je crois que... Alors pourquoi aux États-Unis pas en Europe ? Eux pensent que c'est l'effet de U inversé. Moi, je pense que c'est un effet de between firm. Mais ça, c'est la chose donc, qu'il faut explorer. Alors, eux disent évidemment, Draca se concentrait sur le textile. Évidemment, leur manière de contrer Blum et Draca, ça fait un peu débat des primaires, hein. Eux, ils disent, mais oui, mais eux, ils ont regardé le textile. Moi, je regarde toute économie, mais je pense que Blum va leur répondre ce que je leur réponds. Vous ne regardez que les grosses firmes existantes et vous ne regardez pas toutes les firmes dans un secteur. Et donc, vous ratez une partie de l'explication. Ils en sont là pour le moment, mais vous voyez que le débat est encore ouvert. Mais je veux vous montrer des débats ouverts, parce que je veux vous montrer la recherche en train de se faire et le débat qui n'est pas encore conclu. D'accord ? Donc, voilà. Oui. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Effet négatif d'augmentation, conclusion différente de l'étude sur l'Europe, mais avec des explications possibles. J'en vois au moins deux et il faut explorer quelle est celle de ces explications qui est valable. Il est moins 8. Je propose maintenant, nous avons encore trois papiers à faire. Est-ce que nous pouvons... Vous avez une question ?